Une vie, une œuvre, Nadia Boulanger, 1887-1979, Paris. Elle est fille de la princesse Raïssa Ivanovna Michetsky et du compositeur Ernest Boulanger. Son père l'encourage dès l'âge de 9 ans à étudier l'orgue et composer. Plus tard, à 12 ans, elle joue l'ensemble du clavier bien tempéré de Bach par cœur. Quand la guerre survient, elle fonde avec sa petite sœur Lily la Gazette des classes de composition du conservatoire, dans laquelle les musiciens engagés peuvent échanger des nouvelles. En 1918, sa sœur meurt et Nadia renonce à la composition pour s'engager dans ce qui animera toute sa vie, la pédagogie. Elle exerce au Conservatoire international de Fontainebleau et dans son appartement de la rue Ballu, organise des mercredis où elle donne des cours d'analyse et d'interprétation à tout un public trié sur le volet. Parmi ses élèves, Elliot Carter, Aaron Copland, Pierre Schaeffer, Igor Markevitch, John Elliott Gardiner, Daniel Barenboim, Dean Oulipaty, mais aussi Quincy Jones ou Donald Byrd. Claire Pouly signe, avec Yvon Croisier, Une vie, une œuvre, Nadia Boulanger.
Émile se sentirait prêt à venir jouer cette introduction.
Oui, je pourrais essayer.
Bon, alors déjà, j'entends ça. J'entends trois notes. Nous admettons que je ne sais pas quelle note. Nous savons que c'est Do, La bémol, Mi bémol. Mais nous supposons que nous ne le savons pas. Mais nous jouons la première note, avec son long battement.
Nadia Boulanger, c'est une figure patrimoniale. Elle incarne une certaine période, une certaine esthétique. 1887, ça nous ramène vraiment à une époque de l'histoire de la musique qui nous paraît très très lointaine, et pourtant c'est la même Nadia Boulanger qui, dans les années 70 en France, exerçait encore une autorité en France et à l'étranger vraiment très très caractéristique.
Pédale. Lentement. La première note qui s'y ajoute, c'est sixte, énigmatique, une note de plus, inlocalisable, tu continues. Et alors tout d'un coup, on a ce rapport, la bémol, la bécart.
Ce qui se dégage d'elle, c'est surtout ce qu'on pourrait dire la présence. Elle avait une sorte d'aura, si on peut dire, qui émanait d'elle, et on était vraiment l'emprise de cette personnalité aussi forte et qui pouvait être à la fois d'une grande douceur et d'une grande sévérité. Pour moi, souvent, j'avais dans ma tête une comparaison avec un personnage qui était le général de Gaulle. Pour moi, Nadia Boulanger avait quelque chose de gaulien.
Nadia Boulanger, la musique en personne. Claire Pouly-Borgeau, Yvon Croisier.
Très mystérieux. Encore plus mystérieux. Mais la même chose se reproduit, la même fausse relation, la même trouvaille, les mêmes gammes qui montent entre les différents instruments. Encore un mystère.
Nadia Boulanger est extraordinaire. Mélange équilibré, je dirais, de cérébral, rationnel et irrationnel.
Jay Gottlieb, compositeur.
Voyant tout de manière troublante de l'autre, et je crois ce qui la rendait si précieuse et pendant si longtemps, c'est que chaque personne en face d'elle avait sa propre existence. C'était pas comme une espèce de tirade ou discours préparé à l'avance, comme ça, comme la plupart des professeurs, de genre « Aujourd'hui, classe, nous allons aborder... » C'était absolument pas Boulanger, ce que je viens de dire. Le tout contraire. Et là réside sa modernité, on peut dire. Qui est là en face, je module, je sculpte avec. Fantastique. Donc, imprévisible. Et donc, pour beaucoup, troublante, parce qu'on ne savait pas où ça allait aller. Soudain, elle a inventé une espèce d'exercice ou une difficulté à résoudre. Allez va, parce que ça, je sens que vous, en face, ce sera utile. Sonate, je me souviens, sonate en la majeure. Tadam, pam, de Schubert à la fin. On arrive au mouvement lent. Et en venant d'analyser, mais jusqu'à la moelle, le premier mouvement, on arrive au mouvement lent. Ceci est trop immense, trop profond, va trop loin. Il faut, on ne peut pas toucher. Tournez les pages. Schlock. Et on a sauté. Mon analyse, elle est trop belle, elle est trop extraordinaire. Trop pour nous. Voilà, et ça c'est le plus grand analyste de l'histoire qui dit ces mots. Voilà Nadia, donc c'est tout de son contraire, j'allais dire. Voilà, c'est un tel mélange.
Je pense que c'est Paul Valéry qui a défini d'une façon magnifique justement ce qu'était Nadia Boulanger en disant dans une photo dédicacée par lui à Nadia, qui disait « celle qui prêche l'enthousiasme et la rigueur ».
Et encore ces gammes descendantes. Et puis on est sur la dominante. Deux petites phrases. Ré, mi, do, si. Si, mi, fa, sol. Qui sont arrêts à la basse. Si, ti, ti. Là, elle chante. La basse chante. Ré, attention aux altérations. Et puis les fusions mélodiques. Ré. Alors, c'est pas en l'entendant une fois que vous pouvez réellement percevoir une telle pensée. Il y a probablement 83 ans, 82 en tout cas, que je connais ce morceau.
Jay Gottlieb, quand avez-vous commencé à étudier avec Nadia Boulanger?
Quand j'avais presque 13 ans. J'étais dans ses 80, jusqu'à sa mort. Elle est morte à 92 ans. Mais la période entre 80 ans et 90 ans, elle est une splendeur. Parfaite, Nadia.
Elle était un peu terrifiante comme professeure.
C'est terrifiant parce que c'est pas prévisible. C'est terrifiant parce qu'elle exige tout ce que l'autre peut faire. Elle citait tout le temps, voilà, de grands auteurs, de grands philosophes. C'était comme un cours de littérature, de philosophie. Elle est chez Nadia Boulanger. Ça dépassait largement le cadre uniquement musical. Parce qu'elle considérait qu'évidemment l'être humain dans sa totalité, c'était ça la question. Qui es-tu? Toi qui oses parler. Et citant Hamlet de Shakespeare, les mots sans signification au ciel n'y vont jamais. Et puis Pascal, le silence éternel et ses espaces infinis me feraient. C'était plutôt cosmique, énorme. Et cette histoire de qu'est-ce que tu as à dire, toi? Quel est ton point de vue? Terrifiant, intimidant, effectivement, pour beaucoup. Parce que si on était, comme elle disait, un agneau, ou si on était la fin du train et pas le début, ça ne m'intéresse pas. Out. Elle disait, il y a trois approches uniquement dans cette vie. Le choix, l'amour, la passion. Point bas. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu penses? Oui, voilà. Qui es-tu? Qui es-tu? Thank you.
Elisabeth Giuliani, responsable du Fonds Nadia Boulanger à la Bibliothèque nationale de France.
Alors, son père s'appelait Ernest Boulanger. Il était lui-même musicien, il avait eu le prix de Rome, il était compositeur et surtout compositeur d'ailleurs d'opéra bouffe, d'opéra comique. Il n'a pas laissé des œuvres magistrales, mais il était extrêmement bien introduit dans les milieux musicaux et qui s'est marié donc avec cette Raïssa, beaucoup plus jeune que lui, qui était son élève, qui était une cantatrice venue de Saint-Pétersbourg. Et ils se sont mariés, ils étaient une différence d'âge considérable, ce qui a laissé pas mal de doutes sur l'authenticité de la paternité de cet Ernest Boulanger sur les deux sœurs Boulanger. Voilà. Ils ont eu 4 filles, dont 2 seulement sont arrivées à l'âge adulte. Donc Nadia d'abord, qui est la seconde des enfants, et puis Lily. Raïssa Boulanger, elle était nettement plus jeune que son mari et elle est morte en 1935, donc elle a survécu longtemps à Lily qui est morte en 1918 et elle a vécu avec Nadia jusqu'au bout dans cet appartement de la rue Balue que Nadia a continué à occuper jusqu'à sa mort en 1979.
Comment était la mère de Nadia Boulanger, cette fameuse Raïssa Michevski, comment était-elle?
Alors physiquement elle était très belle. On a quelques portraits d'elle. C'était une brune, une brune très majestueuse. Donc sinon, c'était une femme qui organisait, une bourgeoise. Je ne peux pas dire une grande bourgeoise, mais une bourgeoise. Elle avait son jour où elle recevait dans son salon les personnalités musicales ou mondaines. Par exemple, à la mort de son mari, il y a une lettre de Tchaïkovski à elle, enfin à Raïssa, qui lui envoie des condoléances, mais plus que des condoléances. Visiblement, ils se connaissaient un peu, quoi. C'était pas, donc vous voyez, c'était quand même un endroit où on fréquentait des musiciens de grande qualité.
Et puis, un jour.
Nadia Boulanger, entretien avec Bruno Mont-Saint-Jean, 1976.
Ce monstre qui me terrorisait, le piano qui était dans le salon, j'y étais moi-même, et puis passaient les pompiers, et j'ai essayé de trouver les notes. Et je vois encore mon père debout contre le piano, c'est un piano droit, disant « Quelle drôle de petite fille nous avons !» Et de ce jour-là, c'était la musique toute la journée.
Ce sont les pompiers qui vont révéler la musique, finalement.
C'est le son qu'on peut reproduire. Je pense en notes avant de penser en mots. Parce que je n'ai pas appris à rien normalement. J'ai appris d'abord la musique. Et puis quand j'avais 8 ans, il y avait 3 ans que je faisais de la musique, que je lisais dans toutes les clés, que je transposais, que j'avais fait déjà une partie du traité d'harmonie, ma mère m'a dit « Tes yeux vont un peu mieux, je crois que tu aimerais lire. » Et nous avons commencé à lire comme ça avec le général Dworkin. Et je fais encore des fautes en lisant, parce que tout d'un coup, je mets un N au lieu d'un U, je mets un V, et j'ai failli rater mon permis de conduire en Amérique, parce qu'on m'a mis devant un texte. Les lettres me sont moins familières que les notes. Mmh. Je lis le journal avec plus d'hésitation que je lis une partition.
Elle a été une élève remarquée dans son parcours au conservatoire.
Alexandra Lederich, secrétaire générale du Centre international Lily et Nadia Boulanger.
Et elle a été élève de Gabrielle Fauré. Elle a étudié donc avec Enesco, avec Ravel. Elle a donc fait des études de virtuose. Elle était une virtuose du piano, une virtuose de l'orgue. Mais il est vrai qu'elle a choisi... après avoir obtenu tous ses prix en 1904, de développer cet autre aspect qui est l'aspect de la compositrice. Et en 1905-1906, elle a souhaité se présenter au concours de Rome de composition musicale. sans réel succès, sauf en 1908. Son talent, la qualité de ses compositions, de sa cantate notamment, lui, on va lui, tout de même cette année 1908, le second Grand Prix de Rome, ce qui était une belle victoire pour une femme, première fois qu'une femme remportait ce second Grand Prix de Rome. À l'époque, elle s'est rapprochée de Raoul Pugnot, donc qui était lui un immense pianiste. Il se trouve qu'ils étaient très proches et même plus. Ils ont ensemble, qui est quand même tout à fait exceptionnel, il n'y a pas beaucoup de cas comme ça dans l'histoire de la musique, hein, où deux compositeurs partagent la composition, alors un cycle de mélodies et même tout un opéra sur le livret de D'Annunzio, sur la ville morte. L'œuvre a vu le jour, ils ont travaillé beaucoup, beaucoup pendant 2 années consécutives. L'œuvre était prête à être montée à l'Opéra Comique, ce qui aurait été vraiment une consécration pour la compositrice. Mais bon, le sort en a décidé autrement, la déclaration de guerre et surtout la disparition brutale de Raoul Pugnot, qui ont donné tout cela un arrêt à son souhait de composer.
En 1918, Nadia Boulanger perd sa sœur, Lily. C'est un grand drame pour elle. Quels étaient les liens entre les deux sœurs ?
Alors, les liens étaient extrêmement proches. En tous les cas, Nadia avait vis-à-vis de sa petite sœur énormément d'admiration. Elle avait tout à fait conscience que Lily avait un génie musical qu'elle-même n'avait pas. L'admiration plus cette affection toujours animée par l'angoisse a fait que Lily, pour elle, est une espèce de personnages mi-divins, enfin angéliques d'une certaine façon. En plus, elles avaient une foi un peu curieuse. En tous les cas, Raïssa et Nadia, elles étaient à la limite de la superstition. Le côté rituel extrêmement fort, extrêmement prégnant. Donc, pour elles, il y avait des signes du ciel. Enfin, il y avait des. Et Lily était pour elles une espèce de messagère. D'un idéal musical et qu'il fallait préserver. Un ange qui serait passé comme ça.
Écoutons, sous la direction de Nadia Boulanger, interprétée par Gisèle Perron et un ensemble instrumental, le Pie Jésus de Lily Boulanger.
La musique de Lily, alors bien sûr, on y ressent des influences de Forêt, elle fait très musique française, mais toujours à la limite du malaise, enfin de très très expressive, avec des instrumentations originales. C'est pas une musique facile, quoi. C'est une musique qui s'insinue en vous, c'est une musique assez séduisante, mais dans une séduction un peu triste, je dirais. Et donc là, c'est ce que toutes les années, à partir de 1938, Nadia Boulanger faisait donner un service en l'honneur de sa mère et de sa sœur, et ça a duré presque jusqu'à ça a même duré au-delà de sa mort. Et donc chaque année, ce service était donné, carton d'invitation, etc. Et donc elle s'est énormément investie tout le temps en la jouant, en la programmant et en la faisant connaître. Donc après, Nadia, pour plein de raisons, après la guerre de 14, a changé, a pris un autre personnage de vestale, si je puis dire, d'un certain type de musique et d'un certain message musical, mais aussi de sa famille, et en particulier de Lily, qui est devenue le centre du culte familial et du culte musical et de la vie publique de Nadia.
Voilà. Est-ce que cette mort prématurée de Lily a accentué le côté mystique, le côté et aussi l'intérêt et le goût de Nadia Boulanger pour la musique religieuse.
Peut-être, mais disons que Nadia, elle est mystique, pas forcément, c'est pas forcément sur Dieu que ça tâche particulièrement son mysticisme. Elle est, je dirais qu'elle a un mysticisme et conceptuel et sur des personnes. Et on voit bien qu'elle a l'admiration ravageuse. Enfin, quand elle admire quelqu'un, mais c'est fou, quoi. Elle est mystique, elle était très religieuse, elle était même un brin, on dirait aujourd'hui, un petit peu intégriste dans ses conceptions de la religion. Mais j'en sais rien, je peux pas, je l'ai pas connue, moi, et je vais me faire honnir par les boulangistes les plus, enfin, mais je pense que c'était plus une façon qu'elle s'enflammait pour des idées, pour des œuvres musicales, bien sûr. Elle idolâtrait Stravinsky d'une façon, enfin, extraordinaire, quoi. C'était un personnage, un grand amour musical de ces Stravinsky.
Elle a, dans les années 1916, elle avait signé un contrat avec les éditions Ricordi, contrat d'exclusivité, ce qui était tout à fait rare et exceptionnel. Donc elle avait un contrat en bonne et due forme pour composer opéra, symphonie, pièces de musique de chambre. Mais tout cela pendant la guerre, tout cela... en même temps que la maladie dramatique de sa sœur... Beaucoup d'éléments extérieurs qui ont mené à cette décision de stopper la composition. Et c'est donc après ces dernières mélodies qui datent de 1922 qu'elle n'a plus jamais semblé éprouver le besoin de composer.
Une autre facette de sa personnalité, Nadia Boulanger était aussi interprète. Elle a joué dans des concerts, elle a été organiste à l'église de la Madeleine.
C'est vrai. Là, vous parlez de l'organiste, elle a mené un début de carrière d'organiste. Elle était présentée comme l'organiste la plus réputée et elle a fait une belle tournée aux États-Unis. En France, elle a développé ensuite... un talent de pianiste un peu. Elle a notamment donc joué avec Jean Francais. Elle jouait à deux pianos des concertos de Mozart. Et puis elle a joué beaucoup avec Dino Lipati, hein, les valses de Brahms. Et elle a, dans les années 1930, elle a développé toute une activité de chef d'orchestre et chef de chœur. Et même si elle n'a jamais pris de cours de direction, elle savait très précisément ce qu'elle voulait.
Elle est la première femme à avoir dirigé...
Jay Gottlieb.
Certains très, très grands orchestres dans le monde. BBC, Halle, là, c'est ces photos-là. Aux États-Unis, Boston Symphony, New York Philharmonic, Philadelphia Orchestra. Première de l'histoire, première femme. D'ailleurs, il y a une anecdote que je chéris quand elle est arrivée à Boston pour commencer les répétitions avec l'orchestre. Donc, comme j'ai dit, première femme dans l'histoire de diriger cet orchestre. On lui demande, alors, comment vous vous sentez, voilà, en tant que femme, à diriger cet extraordinaire orchestre, dominé depuis longtemps par les hommes? Elle répond, ça fait un peu plus que 40 ans que je suis femme, et à part mon choc initial, je me suis faite.
Donc, lorsqu'elle a été invitée ensuite en 1939 à New York à diriger là aussi, première femme à diriger le New York Philharmonic à Carnegie Hall, c'est bon, avec le recul, on imagine l'impression qu'a pu faire cette femme sur, sur ce monde d'hommes.
Alexandra Lederich.
Et donc, je pense qu'elle a, oui, d'une certaine façon, elle a tracé un chemin, même si c'était pas le chemin qu'elle souhaitait mettre en avant. C'est tout de même remarquable de sa part.
Et puis ensuite, le choix, sa grande vocation, celle de pédagogue.
Elle enseigne depuis 1904, donc l'année où elle a eu ses prix, et sortie du conservatoire. Elle organise déjà un cours chez elle, un cours de pédagogie. Le fait qu'elle se retrouve un peu chef du foyer à la maison, là, contrainte. Il fallait maintenir un certain niveau de vie. La maman avait des habitudes de confort relativement aristocratique. J'imagine que le train de vie n'était pas tout à fait... C'était pas très simple, et Nadia Boulanger s'est retrouvée dans la situation de d'être contrainte de gagner sa vie. Je ne suis pas sûre que dans les années 1910, c'ait été sa préférence.
Narcisse Bonnet, vous avez été l'élève de Nadia Boulanger. Quand l'avez-vous rencontrée?
Eh ben, je l'ai rencontrée en 1949, j'avais 16 ans, et par l'intermédiaire d'Igor Markevitch, qui était venu diriger à Barcelone. Donc, c'est lui qui a décidé qu'il fallait que je travaille avec Nadia Boulanger. Donc, il a tout arrangé. Et on a pu obtenir un passeport à l'époque. L'Espagne était aussi fermée que plus tard, que l'Union soviétique. Mais finalement, on a pu avoir un passeport avec mes parents. Et on a fait un premier voyage à Pâques, en Pâques 49, où donc je rencontrais pour la première fois Nadia Boulanger. Et je me souviens que je lui avais demandé un petit autographe. Il avait écrit « En souvenir d'une première rencontre heureuse ». Et voilà.
Quelle impression avez-vous eue? Est-ce que vous pourriez...
Évidemment, c'était une impression, c'était une sorte de mythe pour moi, une sorte extraordinaire. Et elle m'a établi un horaire extraordinaire, parce que je la voyais presque tous les jours.
Comment était-elle physiquement?
Elle s'habillait toujours d'une façon très austère. Elle était grande. Et je me souviens, une fois à Monaco, à la sortie d'une réception le soir, et on regardait Nadia qui s'avançait toute seule. Il émanait d'elle une sorte de majesté, et elle portait une cape longue. Donc, c'était une figure tout à fait royale.
Alors, de Nadia Boulanger, on a des photographies.
Elisabeth Giuliani.
Alors, ce qui est frappant, c'est qu'elle s'est créé un personnage, celui qu'on connaît, parce que c'est celui qui est resté jusqu'à la fin, habillée en noir, avec ses petites lunettes cerclées, un chignon, et puis toujours habillée pareil. Elle a eu de l'allure, hein, c'est pas du tout, mais habillée de noir. Enfin, je vous dis ça comme ça, mais...
Alors, on dit toujours qu'elle avait l'air d'une gouvernante revêche.
Doda Conrad, chanteur lyrique, 1997.
Alors, pour moi, pas du tout. Des traits d'une distinction étonnante, d'une finesse, un profil magnifique, des cheveux qui étaient d'une couleur assez indéfinie, mais d'une qualité charmante. Elle était coiffée d'une façon charmante et elle était d'une élégance totale, quoique habillée comme une gouvernante, c'est-à-dire talons plats, mais des chaussures faites sur mesure chez le premier faiseur, des costumes tailleurs qui venaient pas de chez Chanel, mais de quelqu'un de ce genre, chez Krieg, un peu masculin, une chemise en soie très jolie, avec une cravate lavalière, mais qui n'en avait pas l'air, avec une étoile en diamant, toujours là, n'est-ce pas? Alors, à cette époque, au début, elle avait des lorgnons ce qui lui donnait un air revêche, des lorgnons avec une petite ficelle noire qui pendouillait comme ça. Ça, évidemment, ça lui donnait un air de maîtresse d'école.
Il y avait l'autorité.
Narcisse Bonnet.
Je me souviens aussi de l'avoir vu faire pleurer des élèves. Elle pouvait être dure, mais aussi elle pouvait être comme du beurre fondant. Mais chaque jour que je sortais du 36 rue Ballu, je sortais toujours avec une sorte d'enthousiasme. Elle communiquait la vie. Donc, il y avait quelque chose qui allait de l'avant, même si j'avais reçu une douche d'eau froide, parce que ça pouvait arriver, évidemment. Mais la sortie, malgré tout, était toujours enrichissante. Toujours, toujours.
Et n'oublions pas, je suis désolé de vous couper, mais le mot « amour » est utilisé, tous les trois mots. Et les gens, et ça, j'insiste sur ce rappel. Le mot « love », on peut avoir tout de ça. C'est Nadia qui parle. On peut avoir tout le savoir, tout le génie, le talent du monde. Mais si on n'a pas un amour inébranlable, tout ça, ce n'est rien. La musique est tout, et la musique a besoin de tout pour la servir dignement. Voilà le résumé de la situation. Donc un jour, il y avait une fille qui est là, c'est Madame Parfaite. Elle a 13 ans, je me souviens très bien. Et parfaite. Et elle se met au piano devant les 30 personnes qui sont dans la cour collective. Pang, 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 pang. Une laideur horrible, mais parfaite, évidemment. La chose très, très difficile que, voilà, malheureusement. Et elle enlève les mains de la fille du clavier, et ça, je ne l'oublierai jamais. Comment tu joues avec cette laideur de son, etc. Ça ne veut rien dire. Trouve une joie dans l'obligation, ou c'est rien. As-tu grimpé dans un arbre, mademoiselle? Et la fille, qui a un chignon et qui se déguise en 80 ans, elle a 13 ans, je répète, elle se déguise en grande dame. Surtout pas, répond. Grimper dans un arbre, c'est au-dessus, en dessous de moi, mais surtout pas. Oui, dit mademoiselle Boulanger, ça s'entend.
Mais c'est là la condition essentielle. Il ne faut pas oublier Saint-Paul. Quand vous auriez la foi et l'espérance, si vous n'avez pas l'amour, vous n'avez encore rien.
Émile Naoumoff, merci d'être avec nous pour évoquer ensemble la figure de Nadia Boulanger. Combien de temps a-t-elle été votre professeure ?
Prophétiquement, 10 ans durant, car au départ, quand je lui étais présentée, j'avais 7 ans. Mes parents m'ont sortie du rideau de fer pour la rencontrer, car elle était mythe vivant, mais derrière le rideau de fer en Bulgarie, on n'était pas sûr qu'elle l'était encore, physiquement du moins. Donc c'était un pari de mes parents, presque comme une vision un peu initiatique pour moi, parce que mademoiselle Boulanger était déjà extrêmement âgée. Et elle a demandé, à l'issue de cette petite rencontre qui a eu lieu dans son appartement le mercredi jour de quand elle recevait, et elle s'est adressée à mon papa en disant « Je veux que le petit travaille avec moi pendant 10 ans à partir de maintenant. » Elle en avait 84 et j'en avais 7. C'était un pari que papa a fait en quittant tout ce qu'il avait en Bulgarie professionnellement et pour me permettre d'être auprès d'elle. Et la générosité de mademoiselle Boulanger était telle que j'ai pu, au fond, me construire autour d'elle presque pendant 9 ans et demi. Donc c'est pour cela que je disais, c'est presque une prophétie qui a eu lieu.
Est-ce que vous pourriez me raconter votre première rencontre? Quelle impression vous a-t-elle fait au premier abord?
Alors mes parents m'ont mené voir, pendant la semaine où nous étions à Paris, le musée de Grévin. Et ça m'avait fait peur d'ailleurs, tellement c'était vraisemblable ces personnages en cire. Et quand nous sommes entrés dans le l'appartement du 36 rue Ballu pour me présenter à Mademoiselle Boulanger, j'avais l'impression d'être de nouveau dans un musée.
Un trait caractéristique de Nadia Boulanger, c'était son attachement au passé. Alors, ce n'était pas seulement dans le domaine musical. Je ne veux pas dire par là que c'était extraordinaire qu'elle ait rejoué la musique de Monteverdi et même d'avant. Ça entrait dans son activité pédagogique, etc. Mais son passé personnel était exposé partout. Le souvenir de sa sœur, le souvenir de sa mère, c'était comme une espèce de culte auquel cet appartement rendait hommage. Il y avait des photos, une très belle sculpture de Lily, enfin un très beau portrait sculpté de Lily qui était là, qui trônait au milieu de la pièce. Il y avait un orgue, comme c'était la mode à la fin du 19e siècle, un orgue évidemment avec une sonorité épouvantable, deux grands pianos à queue, des tapis. Elle ne voulait que rien ne change. Tout objet qui était là ne devait plus jamais changer. Donc on était dans un appartement du 19e siècle.
Il y a qui elle était et ce qu'elle était. Alors, on peut mettre toujours beaucoup de guillemets dans qui elle était, parce qu'elle était inévitablement le fruit de son époque. Et donc, elle avait ce côté désuet au regard des contemporains de mon époque. Et puis, il y avait l'intemporalité en elle, ce classicisme, cette rigueur, cette écoute, cette attention, ce respect pour l'effort. Elle n'était pas épatée par le don. Il était surtout étonné par l'effort. Et je crois qu'il y avait des tas de choses comme ça qui font que les leçons avec elle étaient par différentes manières d'entrer dans la chose. C'est un peu comme si, quand on commence médecine, on étudie l'anatomie, et puis si on va dans un séminaire, on étudie l'âme. Alors on peut s'intéresser à l'horloge comme à l'horloger. Et Mademoiselle Boulanger maintenait les deux, c'est-à-dire que elle essayait toujours de nous faire découvrir comment les musiques sont faites, l'ADN de la pensée d'un compositeur, mais jamais pour le singer, jamais pour le réduire uniquement à l'analyse que l'on fait. Il y avait toujours cette part de mystère.
Donc, j'ai rencontré Nadia, je crois que c'était dans les années 50.
Bruno Gillet, compositeur.
Moi, je prenais des leçons privées avec elle. Et quand je prenais une leçon d'harmonie avec elle, bon, elle regardait, bien sûr, elle regardait ce que j'avais fait, elle critiquait, bon, c'était très intéressant. Mais tout le temps, elle préférait parler. Alors, elle s'arrêtait de regarder, elle avait Tacha, c'était la petite chatte bleu russe qu'elle avait sur les genoux, qu'elle adorait, qui partageait sa vie tout le temps, Tacha était toujours là. Ça scandalisait certains élèves, d'ailleurs, et un jour, elle m'a raconté, oui, alors j'ai vu un élève hier qui est venu, et il a vu que Tacha était sur mes genoux, et alors il a dit, oh, j'ai horreur des animaux. Alors, j'ai immédiatement compris que c'était pas un artiste, je dis de ne plus revenir. Voilà, ça c'est une histoire qu'elle m'a racontée. Alors, Tacha était toujours là, et alors, la tentation de parler, plutôt que de regarder le papier, les exercices que je lui apportais, parce qu'elle en était plus ou moins satisfaite, mais c'était parler. Elle parlait de tout. Elle parlait de tout, du caractère des gens qu'elle aimait, des valeurs qui comptaient pour elle dans la littérature, absolument de tout. Et puis elle se comportait avec moi comme si c'était une seconde maman, quoi. Elle disait, il faudrait que tu changes de manteau. Ah, tu as une veste très chic, mais quand même, fais attention. Est-ce que tu as un paletot? As-tu un bon docteur? Etc. Voilà, c'était des choses qui tenaient une place énorme. Donc la relation de personne à personne a été plus importante finalement pour moi, et ça reste vrai dans mon souvenir, que le côté pédagogique, parce qu'on était tellement d'accord sur bien des choses que finalement les choses autres ont pris une place énorme. Voilà, et c'était comme une autre maman, hein, pour moi, vraiment, vraiment.
Oh, elle m'a... J'ai deux mères, biologique et Nadia. Je crois que ce n'est pas... D'ailleurs, quand je les ai présentées, c'est extraordinaire. Ma maman qui est venue de New York, pour voir son fils, là, je présente la grande Nadia Boulanger. Elle entend que ce nom depuis mon enfance. Et le rêve est devenu réalité. Et la maman est là. Je présente. C'était une très belle femme, blonde, très sexy, genre Marilyn Monroe. Et Nadia la regarde. Maman, je dirais plutôt la sœur. Et là, ma maman me regarde. Ouh, j'aime beaucoup ton prof. Elle est très gentille.
Très psychologue.
Psychologue, mais aussi en même temps, ça va plus loin parce que ça implique que Nadia, c'est la maman. Ne confondons pas. Et c'est assez terrible. Et il y a beaucoup d'histoires de ce genre à travers les décennies de Nadia qui devient la maman ou la grand-maman. Et n'oublions pas la passion que nous partageons, plus forte que votre biologie. Et en même temps, elle avait... Non, mais tout est au contraire. Donc il y a ça, cette dévotion, vraiment on s'applique, dévotion à notre art, qu'on choisit comme une religion, sacerdoce, le mot est utilisé très souvent. Si vous ne voulez pas, si vous ne voyez pas comme ça, partez. Si vous ne voyez pas la mort pour votre art, partez. Bon, il y a Saint-Jean-Perse, il y a pour Valérie qui disent d'elle, elle est la musique elle-même, elle est la musique incarnée, n'est-ce pas? Donc voilà, on comprend le point de vue, c'est la musique qui prime, c'est sûr, surtout.
En tant que pédagogue, qu'est-ce que vous retenez, Narcisse Bonnet, de cette pédagogie spécifique de Nadia Boulanger?
Il y a d'une part, son œil était extraordinaire parce que on lui présentait une partition et puis elle avait un œil qui regardait, qui voyait ce qui n'allait pas. Elle n'a imposé jamais, mais elle faisait voir ce qui n'allait pas. Mais elle choisissait pas. Un professeur de composition, étant donné sa propre personnalité, risque d'imposer sa personnalité à l'élève. Et chez Nadia, le fait d'ailleurs qu'elle a renoncé à la composition, fait que, en fait, elle était là au service de l'élève pour l'aider à se retrouver lui-même.
Ce qu'il y a de plus fascinant dans le privilège très grand d'enseigner, c'est qu'on arrive peut-être à forcer ou à amener celui qu'on enseigne à regarder réellement ce qu'il pense, à dire réellement ce qu'il veut et à entendre ce qu'il entend. Et je crois que là encore, c'est l'influence de ma mère qui domine, parce qu'elle n'admettait pas que l'on puisse faire quelque chose sans faire réellement attention.
Qu'est-ce que ça veut dire exactement, faire réellement attention?
Est-ce que vous savez?
Non, je vous pose la question.
C'est le moment où on a perçu ce qui doit être certaines formes de vision qu'ont les grands mystiques. Il y a des jours où il leur a été donné de faire réellement attention. Et souvent me vient à l'esprit Sainte Thérèse d'Avila, qui, grande sainte qu'elle était, grand esprit qu'elle était, avait ces jours qu'elle appelait jours de prière sèche. Où elle priait, elle n'a jamais cessé de prier, mais rien. Et puis le jour, elle entendait. Nous appelons ça en art inspiration. C'est le moment où un homme peut arriver à capter sa pensée, sa vraie pensée, tout au fond. C'est ce moment où une communication s'établit.
Nadia Boulanger s'intéressait à toute forme de musique, au jazz, pas seulement à la musique ancienne, et pas seulement la musique classique d'ailleurs.
Non, elle était intéressée partout. Ça ne veut pas dire qu'elle aimait tout. Mais elle avait un regard d'intérêt, de connaître, et puis elle aimait ou elle n'aimait pas, ça c'est une autre histoire. Comme si on vous offre une confiture, et comme on m'a fait quand j'étais gosse, on m'a fait une confiture très bonne, mais je ne l'ai pas aimée. Et j'ai compris que je ne pouvais pas dire que je ne l'aimais pas. Il était très bon, j'ai dit, mais je ne l'aime pas. Donc on peut reconnaître la qualité d'une chose, mais ne pas l'aimer.
Mais elle attendait que vous ayez une idée sur les choses, que vous exprimiez le fait que vous aimiez ou non
musique. Oui. Justement parce qu'elle respectait la personnalité de l'autre. Elle le respectait, elle n'imposait pas. Elle imposait seulement, disons, le travail pour acquérir une technique. Et basée beaucoup sur le solfège. C'est-à-dire, le solfège, il faut savoir que le solfège vient de solfamisation. C'est-à-dire, sol, fa, mi. Donner le nom des notes. Un sol, un fa ou un mi. Il faut donner un nom aux choses. Je dis souvent que pour exprimer un sentiment, vous n'avez pas besoin de mots. Vous pouvez exprimer un sentiment avec un geste, avec un regard, mais vous ne pouvez pas exprimer une pensée sans les mots. Donc en musique, vous pouvez exprimer un sentiment musical sans savoir les mots. Mais si vous voulez exprimer une pensée musicale, il faut les mots. Et les mots, c'est do, ré, mi, fa, sol.
Donc, il y a beaucoup qui prétendent qu'elle était passéiste, la fameuse néoclassicisme, jusqu'à la nausée quand j'entends ça. C'est vraiment mal à connaître, parce que c'était tellement... Donc, elle voulait que les gens possèdent des bases et des socles solides pour pouvoir s'envoler. Elle était la première à dire que les règles étaient là pour être cassées. Voilà. Donc, on apprend les règles et après, on fait ce qu'on veut. Donc, Bach est extraordinaire parce qu'il sait très bien, justement, construire justement des choses de manière rigoureuse. Et après, il quitte le cadre complètement. L'art est créé parce que, justement, on sait très bien briser, justement, ces règles. Mais il faut les connaître. Voilà. Donc, ça, c'est Nadia à tout casser. C'est sûr qu'elle allait tellement plus loin que la plupart des professeurs de l'histoire, et jusque maintenant, rien à voir comme profondeur d'approche. Mais qu'est-ce qu'on est solide à l'issue de tout ça. Donc ça, c'est le premier point qui doit être absolument souligné. Et elle a compris ça. Donc elle abandonne voilà, la composition, elle abandonne le bâton comme chef d'orchestre. Elle devient cette extraordinaire prêtresse de la musique qui possède tout. Voilà. Je l'appelle un disque dieu ambulant. Et je l'appelle aussi le Vladimir Horowitz des professeurs. Bon. Donc on avait cette la plus grande des grandes comme professeur. Quelle chance. Pour ce qui était la musique contemporaine, et chaque fois que j'allais là, pratiquement, surtout quand j'étais fini de travailler avec elle, et j'allais la voir, qu'est-ce que tu as entendu qui t'a marqué, qui t'a frappé? Nouveauté. On en parle. Elle voulait savoir. Elle écoutait la radio, mais elle était là, religieusement. Vraiment. Pour suivre tout ce qui se passait. Elle entendait quelque chose qu'elle aimait. Je suis devenu très, très proche de Maurice Ohana, par exemple, qui m'a dédié des pièces. Et elle avait entendu une pièce de lui. Elle a écrit une lettre. Maître, c'est fantastique, cette pièce. J'adore, je l'ai écoutée. Il y a la radio. Bravo, parce que, etc. Bon. Je donne une illustration entre mille. Elle était parfaitement au fait de ce qui se faisait. Et si on doutait, justement, elle pouvait se mettre au piano et jouer des mémoires, justement, qu'elle avait entendues une fois. Un bon génie. Oui, on est sur un niveau, n'est-ce pas, qui dépasse largement ce qu'on a à dire. Donc, aucun problème. N'oublions pas que chaque note de Stravinsky adorait. Elle ne connaissait pas cœur, mais tout. Un jour, elle disait, justement, « Oui, vous dites que vous connaissez Stravinsky, quoi ?» Et les gens parlaient des grands classiques, le début, des ballets, etc., les œuvres autour, justement, de 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, et dépassées rarement. Elle dit, oui, mais je vois que vous connaissez The Flood. A Sermon, a Narrative, and a Prayer. Vous connaissez? Requiem Canticles. Vous connaissez? Donc, évidemment, non. Oui, et voilà le problème. Et elle se met au piano et elle commence à jouer, justement, ces œuvres qui sont extrêmement difficiles et extrêmement abstraits, extrêmement dissonants, n'est-ce pas? Et elle les connaît par cœur. Aucun problème. Elle est en train de jouer. Oui, et vous dites que vous connaissez Stravinsky. C'est malheureux. Nous vivons une époque où on parle de grands poètes, mais pas de grands poèmes.
Alors, je ne sais pas où on pourra placer cette courte lecture de phrases que j'ai retenues de Nadia Boulanger sur la façon de travailler la musique.
Bruno Gillet.
Elle reste valable, quelle que soit la direction dans laquelle on écrive aujourd'hui. Alors, ce qui était remarquable, c'est que tous les conseils qu'elle donnait, ils tenaient en quelques mots qui revenaient sans arrêt, et ils étaient tout à fait assimilables à des espèces de règles du savoir-vivre appliquées à la musique. Et elle disait, mais à cet endroit-là, tu ne sais pas quoi mettre, mais pourquoi pas rien? Pourquoi pas rien? Et je repense à ça tout le temps. Si on n'a pas envie, si on ne sait pas quoi mettre, c'est peut-être qu'il faut qu'il n'y ait rien à cet endroit-là. Méfiance pour les conseils d'interprétation, ralentir, accélérer, etc. Dans un cas, c'est qu'il y a trop de notes, dans l'autre cas, c'est qu'il n'y en a pas assez. La clé de la connaissance dans le domaine de l'art, c'est l'étonnement. C'était sa perpétuelle question. Être étonné, c'était la première chose pour avoir un contact avec la beauté, avec la perfection. Elle considérait que des tas de choses sont des bijoux inutiles, des clips qui attirent trop le regard, qui sont des simples petites décorations. Et elle citait Georges Brummel, le pape de la mode anglaise, qui disait que si on remarque qu'une femme est très très bien habillée, c'est que vraiment il y en a un peu trop et que ça ne devrait pas se remarquer. Elle faisait des comparaisons avec l'architecture, disant, mais ça, c'est surtout devant les interprètes, ça, c'est pas important ce que vous jouez là, dans une fugue de Bach, ou un prélude, il y a tout à coup une marche d'harmonie très longue, c'est pas important, c'est un couloir. C'est un couloir, on y passe, on n'y fait pas attention, allez, avancez. Et alors, ce que j'ai appris d'elle beaucoup, c'est la beauté de la banalité, un mystère. Elle était fascinée par les œuvres qui n'étaient pas brillantes, qui semblaient banales. Il y a beaucoup de pages de Haydn qu'elle m'a fait aimer énormément, qui sont d'une beauté inexplicable. Et quand on parlait de Nadia religieuse, là, elle touchait à ça. Elle disait, c'est un mystère. Pourquoi est-ce que c'est beau? Je ne sais pas.
Je me souviens que elle me disait, mon petit Émile, quoi que tu fasses, il faut te préparer à aimer. Et si tu n'aimes pas, tu ne juges pas. Tu ne dis pas, je n'aime pas. Et puis un jour, tu essayes de nouveau. Et peut-être que tu diras, non pas je n'aime pas, mais je ne comprends pas. Quand elle disait, il faudrait que tu sois tolérant envers les autres. Toujours. Et sans merci avec toi-même. C'est dur. Au fond, j'ai eu beaucoup de chance, et je le sais, mais malheureusement, je ne connais pas la recette de la manière dont elle conjuguait rigueur et enthousiasme.
Émile Naoumoff, quand on va sur votre site et qu'en première page, vous mettez une photo de vous, enfant, avec Nadia Boulanger, et vous mettez aussi sa citation où elle parle de vous, elle disait « Je n'ai pas à enseigner Émile, j'épluche seulement l'orange ».
Oui, c'est vrai.
Pourquoi y pensez-vous autant en ce moment?
On est peu de choses, et quand on a reçu aussi généreusement que moi, ce n'est pas pour s'en vanter ou pour le garder, c'est pour le transmettre, ce que je fais en enseignant. Je me rends compte naturellement que les professeurs sont un petit peu les mal-aimés ou les oubliés de l'histoire. C'est-à-dire qu'on, naturellement, on sous-entend que les grands musiciens, par exemple, se sont faits eux-mêmes parce que finalement, ils avaient ça en eux. Mais je pense qu'il faut toujours se référer à d'où l'on vient. Alors, ce n'est pas figé comme passé pour moi. C'est un passé au présent. Il m'arrive encore souvent de rêver d'elle. Et c'était d'autant plus émouvant que vers la dernière année, elle m'avait dit « Mon petit Émile, maintenant il faut que tu oublies tout ce que j'étais appris. » Et moi j'ai eu la chance qu'elle était mon professeur pour tout. J'ai eu beaucoup d'autres professeurs pour beaucoup de choses, et merveilleux. Mais elle était une sorte de... Elle complétait tout, au fond. Mais je me sens toujours orphelin.
Nadia Boulanger, la musique en personne. Claire Pouli-Borgeot, Yvon Croisier. Avec Narcisse Bonnet, Émile Naoumoff, Jay Gottlieb, Bruno Gillet, Alexandra Lederich et Elisabeth Giuliani. Archivina, Viviane Lefebvre. Une vie, une œuvre. Attachée de production Claire Poinsignon, coordination Irène Omelianenko.
Cette émission est disponible en podcast et réécoute sur le site de France Culture. Dans quelques instants, rendez-vous avec Étienne Klein pour la conversation scientifique. Samedi prochain, Une vie, une œuvre sera consacrée à l'humoriste Pierre Desproges.